Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la grande capitale de United States of America. Aujourd'hui c'est mercredi, qui dit mercredi dit la country music, la musique traditionnelle américaine, oui, de South, Southeast, Southwest, ah oui, c'est la country, la musique des cowboys comme certains aiment bien l'appeler. Écoutez, on va découler aujourd'hui avec un invité ce soir, je vous en parlerai dans un instant, attachez vos ceintures, on décolle. Mon invité de ce soir, c'est un frère de la diaspora, un frère ivoirien d'origine, mais qui se considère congolais parce qu'il a épousé une congolaise. Monsieur Phil Amel Descali sera mon invité. C'est un écrivain, c'est aussi un journaliste, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup en tant que journaliste, bien sûr, à la situation de son continent, la situation économique, politique, sociale. Il sera mon invité pour parler de la situation en Afrique actuelle, de notre sujet de la semaine, de la situation au Mali, de retrait des soldats français, bien sûr, du Mali, et notre sujet de la semaine, donc il sera mon invité, en dégustant de la bonne musique. Il est aussi écrivain, il nous parlera de son livre, parce qu'il a publié un livre. Ah non, je ne vais pas tout vous dire maintenant, vous allez seulement suivre dans cette émission, il sera ici avec nous, dans cette émission, bien sûr, en dégustant de la bonne musique country, et nous aurons nos segments, comme d'habitude, English avec Michel Joseph, hein, l'actualité et bien sûr le sport avec The One and Only GLS. On va d'abord découler avec Wrong Baby. Wrong. Non, c'est pas bien bébé, c'est pas bien chérie, c'est pas bien du tout, c'est mauvais. Wrong Baby Wrong. C'est la chanson qu'on écoute en ce moment, j'ai dédié à tous les amis qui nous capent. Attaque panique.
Et voilà, donc on est ici avec Monsieur Phil Descalies-Nomel, je pense que je dis bien ça. Phil, raconte d'abord à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, qui est Phil Descalies-Nomel ?
C'est une question un peu difficile. Souvent, il n'est pas aussi facile de parler de soi.
C'est vrai.
Mais bon, je vais essayer de résumer en quelques mots. Phil Nomel, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien, mon deuxième pays d'adoption, c'est le Congo, par ma femme.
Ouais.
Donc, ça me fait plaisir de retrouver mon frère congolais qui vous passe, qui me fait cette interview.
Ouais.
Mais j'ai commencé donc par l'éducation.
Oui.
J'étais éducateur de lycée et collège à Abidjan, à Bengourou.
Ouais.
Et puis bon, après j'ai shift, j'ai donc changé pour le journalisme, qui était presque une passion qui me suivait depuis mon enfance.
Oui.
Et donc, le journalisme, c'est un peu ça qui m'a ouvert les portes pour venir ici. Et donc, de l'éducation, du journalisme, je me suis mis donc à l'écriture. Bon, voilà. Donc, je suis auteur, poète, j'ai écrit beaucoup de poèmes, publié d'ailleurs. Bon voilà, je suis en ce moment aux États-Unis enseignant dans un lycée à Baltimore.
Ouais.
Donc en quelques mots, si tu veux, Phil Nomel, c'est un éducateur. Un éducateur passionné aussi du journalisme. Et puis, à mes temps perdus, j'ai fait un peu de l'humanisme. Donc j'ai une ONG qu'on appelle Nomel Global, qui essaie de, donc, dans le domaine de l'éducation, qui essaie de servir un peu la communauté francophone africaine ici aux États-Unis.
Ouais, ici aux États-Unis. Et ça tombe bien parce que je pense que la première fois qu'on s'est vu, on s'est dit qu'on avait quand même presque un même parcours, parce que moi-même, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans ici.
Absolument.
Je suis journaliste, vous êtes journaliste. Voilà, je suis congolais d'origine, vous êtes congolais par adoption.
Mais vraiment, hein.
Ça. Et donc, ça tombe tellement bien. Mais je rappelle que, encore une fois, comme Phil Descalies-Nomel vient de le dire, il est écrivain aussi, auteur de plusieurs bouquins. Un de bouquins que j'ai toujours pensé faire une émission avec Phil Descalies, c'est Trilogie. Les dernières larmes de Dieu. Les dernières larmes de Dieu, et on en parlera un jour en longueur, enfin en détail. Mais brièvement, de quoi parle ce bouquin ?
Alors, ce bouquin, Les dernières larmes de Dieu, c'est un livre éducatif. Éducatif en ce sens que j'ai constaté avec les nouvelles églises révélées, beaucoup de manipulations au niveau de donc la tête des pasteurs, c'est là qu'ils se font appeler prophètes, et qui donc usent et abusent de la malignité ou du moins de l'ignorance de leurs ouailles. Vous allez comprendre l'escroquerie financière, les divorces, coucher avec les dames, les femmes, provoquer même des divorces, provoquer même des conflits au niveau des foyers, pour dire, oh, c'est ta grand-mère qui veut te tuer, c'est ta tante qui veut te tuer. Donc ce livre-là est un livre pédagogique, est un livre éducatif qui permet au lecteur de comprendre, ah tiens, d'ouvrir un peu l'esprit. L'esprit du lecteur qui dit, mais tiens, attends, ce que mon pasteur dit là, est-ce que je l'ai confronté avec ce que la Bible dit? Est-ce que tout ce que le pasteur dit est vrai? J'ai dit à ma femme, par exemple, ma femme congolaise, j'ai dit, tout ce que le pasteur dit n'est pas vrai. Le pasteur est un humain comme toi qui peut faire des erreurs, qui a aussi des émotions qui souvent jaillissent et réjaillissent en lui pour certaines décisions qu'il prend. Donc il faut toujours confronter ce qu'il dit avant de dire, ah, ce qu'il dit est vrai. Donc c'est un peu ça. Et je peux te dire qu'à 95%, je n'ai pas eu tort. Des pasteurs avec qui j'ai sympathisé.
Parce qu'il faut dire que c'est un travail de recherche.
Mais oui.
Vous êtes informé.
C'est ça. Donc c'est ce livre-là, c'est ce livre-là qui retrace le parcours d'un pasteur africain, ivoirien aux États-Unis, qui il a un problème de sexe. Il a un problème de sexe, d'abus, de finance et tout ça. Et donc
c'est une fiction, n'est-ce pas?
C'est une fiction. Une fiction basée sur des réalités que nous vivons au quotidien dans nos églises.
Ouais. Wow, ça c'est très bien, on en parlera parce que c'est un des sujets qu'on aborde aussi dans mes émissions RM Show et ça tombe vraiment bien quand un de ces quatre on va, parce qu'il faut dire aussi que Phil Descalis-Nomel est aussi dans la politique aussi.
Absolument, hein, absolument.
C'est un journaliste, c'est bien sûr un journaliste, c'est un peu polyvalent.
Le chemin, après le lien entre les deux, là, juste un petit fil, ça tient un petit fil.
Oui, exactement. Et avant d'arriver à notre sujet d'aujourd'hui, là, mm-hmm. Que pensez-vous de la situation politique en Afrique aujourd'hui?
La politique, ouais.
On a vu ce qui se passe au Mali. D'ailleurs, c'est mon sujet de la semaine. C'est la grande question, c'est de savoir que penser. Je pose la question aux jeunes. Que pense-t-il des soldats français du Mali? Que pensez-vous de ça, en fait, du personnel?
Je voulais dire qu'il était temps. En anglais, on dit « it's long overdue ». Je pense que les Français auraient dû partir 20 ans, 40 ans avant. Parce que leur présence a été un plomb, un boulet au pied des nations africaines dans leur développement. Comment comprendre que un pays qu'on invite pour venir juste aider s'implante? Mais ça arroge ce droit-là de dire « écoutez, l'armée d'un pays indépendant ne doit pas franchir une certaine ligne pour aller au nord de ce pays-là. » Et c'est ce que l'armée malienne a souffert pendant près de 10-15 ans que l'armée française était au Mali. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas interdire à une armée d'aller défendre, d'aller visiter une région de son pays. Donc je me dis que le départ de l'armée française est une libération. Et la situation qui se passe au Mali, pour moi, c'est le froment qui est lancé pour la libération totale des pays africains. Et il ne faut pas qu'on se leurre. Mm-hmm. La France est arrivée, je voulais dire, à une croisée de chemin. Une croisée de chemin où, en ce moment même, je sais qu'elle perd beaucoup de muscles, mais elle sait qu'elle a perdu l'Afrique. Elle sait que les pays africains, les jeunes de maintenant, ont compris la stratégie, les stratagèmes, la duperie de cette France-là. Et moi, je pense que les pays africains doivent s'en saisir de cet élan-là et chercher vraiment à faire partie de la France pour eux-mêmes, leur liberté, leur indépendance et leur développement. Parce que, bon, écoutez, les pays francophones, par exemple, le CFA, ouais. Ce n'est pas une monnaie, c'est une monnaie française. Donc, comment vous voulez-vous qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui produit, premier pays producteur de cacao, ne peut pas bénéficier de cette manne financière-là. On doit la déposer dans les banques françaises. Et depuis près de 60 ans, on tourne en rond. Je veux dire, on tourne en rond, on ne peut pas se développer. On nous appelle pays pauvres, très endettés.
Mais vous ne pensez pas, que cela... il y aura des répercussions. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai vu aussi des gens qui sont un peu divisés, même au Mali, qui pensent que la France et ses partenaires qui quittent le Mali, cela peut aussi causer certains problèmes. Donc, eux, ils pensent que le Mali ou d'autres pays africains, comme vous le dites ici, ne sont peut-être pas prêts de se prendre en charge eux-mêmes.
Je vais te dire, depuis 60 ans, nous avons essayé la France. Nous avons essayé la France, la présence française.
Parce qu'on a vu au Burkina Faso aussi, ils sont partagés.
Ça va arriver. Ouais. C'est-à-dire que cette dichotomie-là, en toute chose, cette dualité, en toute chose. Ouais. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mmh. Nous avons essayé la France depuis plus de 60 ans. Mmh. Je voulais même depuis plus de 400 ans.
Ouais.
Essayons l'autre bout. De voir en nous-mêmes, sans elle, sans cette France-là. Et bon, après, on va assumer. On va peut-être analyser et puis voir du bon. Si on a besoin d'elle, on va la rappeler. Mais si on n'a pas besoin d'elle, on va évoluer seul. Il y a plein de pays qui vivent sans l'apport de la France, sans l'apport de l'Occident, forcément. Je veux dire, nous n'allons pas vivre en autarcie. Mais nous voulons un développement gagnant-gagnant, d'égal à égal. Je veux que les pays occidentaux nous prennent comme des humains, comme des pays indépendants, comme ils le disent nous-mêmes. On veut notre indépendance, pas une indépendance sur les cartes, mais une indépendance financière. Cette indépendance financière qui nous permet, nous aussi, de dealer avec des pays que nous voulons. Pas qu'on nous dise, non, vous ne pouvez pas aller dealer avec la Chine ou la Russie. Non, pourquoi? Regardez, Le Mali veut avoir des partenaires comme la Russie et la France s'oppose et s'impose. C'est aberrant. Attends, tant que je suis un pays indépendant, je suis libre de lier les relations avec qui je veux. À moins que, bon, ça ne soit pas une indépendance.
Mmh. Et même si, d'après certains analystes et autres experts en sécurité, qui eux aussi sont inquiets, en tout cas, ils pensent que ce retrait pourrait conduire à la multiplication, comme je le disais aussi, de la violence à la frontière Burkina-Mali.
Niger et tout ça.
Niger aussi, mmh. Voilà, voilà. Ça, et ça, ce sont des experts qui pensent que cela...
Il ne faut pas qu'on se leurre. La France n'a pas fini avec le Mali. Elle fera tout pour créer des problèmes aux Maliens. Et ça, ça tient maintenant au peuple malien, aux politiciens maliens, d'avoir cette position d'activité en amont. De comprendre que, attends, tant que la France se retire, elle va toujours préparer des coups en arrière. La preuve.
Roger Moutou dans
L'armée se retire, elle va au Niger. L'armée se retire, on me dit qu'elle va en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. C'est qui se prépare pour le Mali. Donc, il y a cette vigilance-là que le pays, que les politiciens, que le peuple malien doit avoir l'œil autour de cette frontière.
Mmh. La France n'a pas encore fini. Pensez-vous, Phil, que cette situation va s'y répercuter, va se faire sentir dans d'autres pays africains?
Je veux dire, tu voulais dire le retrait de la France?
Oui.
Je ne suis pas sûr. Mmh. Je ne suis pas sûr que la France va quitter, par exemple, le Sénégal. Mmh. Elle ne va pas quitter la Côte d'Ivoire. Elle ne quittera pas le Gabon. Parce que, comme elle le dit, hein, c'est son précaré. Mmh. C'est son gagne-pain, son mange-pain, si vous voulez. Donc, ouais. La France n'est pas... Elle ne sera pas à l'aise de déguerpir de ce pays-là comme ça. Comme j'ai dit, elle donne de la main droite, mais elle va toujours tenter de reprendre de la main gauche.
Et alors, comment trouver une solution à cette situation?
Vigilance, ouais. Vigilance.
Parce que la France a besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin de la France, en tant que partenariat.
Ben, oui, non, je ne pense pas que l'Afrique ait besoin de la France.
Pas du tout.
Pas du tout.
Enfin, certains pays africains, je veux dire.
Non, même pas. L'Afrique a besoin de tisser des relations avec des pays qui vaillent. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de faire les affaires avec la France. On peut aller avec l'Allemagne.
Exactement.
On peut aller avec la Suède,
ouais.
La Finlande. On peut aller avec la Russie, l'Ukraine.
Bien sûr. C'est pas obligé seulement de faire avec la France, mais j'ai dit la France peut être un de ces pays aussi qui...
Absolument. Voilà. Si elle vient, et que elle prête appel, l'affaire d'égal à égal, avec le respect qu'il faut, pas cette condescendance qui dit que c'est moi qui vous êtes colonisé, donc tout doit passer forcément par moi. On est prêt à faire le business avec la France. Et à ce stade où nous sommes, c'est à cela que nous allons rimer. C'est à cela que nous allons arrimer. C'est à cela que nous allons arriver. Et si la France n'est pas prête à écouter, elle va totalement perdre l'Afrique. Et c'est à cela que nous allons arriver. Ça, je le répète.
Ouais. Wow. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que nous avons Phil Descalinomel ici, un journaliste, journaliste, professeur, écrivain, voilà. Alors parlons un peu de cette, je sais pas si c'est, je dois appeler ça une compétition de la dictée, je pense.
La grande dictée, Normal Global.
Normal Global, ça se passe ici aux États-Unis.
Oui.
Alors quand j'ai dit à certains amis et certains auditeurs que j'allais avoir Phil pour nous en parler, ils étaient d'abord très contents et ils voulaient vraiment savoir un peu plus comment ça se fait, parce que on doit dire que ça ne se fait pas souvent. C'est rare d'entendre une dictée, encore une fois par un prof, un Africain ici aux États-Unis, c'est la première fois en tout cas. C'est quoi exactement, Phil? Les gens veulent savoir.
Oui, alors.
Et qu'est-ce qui vous a motivé?
Oui, alors, comme je vous ai dit, des amis et moi, nous avons créé cette ONG qu'on appelle Normal Global, qui est donc, qui a pour mission et vision d'éducation des pays, des jeunes africains qui vivent ici. Vous savez, le système.
Qui vivent ici aux États-Unis?
Aux États-Unis.
Ah, ok.
Et en même temps, nous avons une vision axée sur l'Afrique.
L'Afrique aussi.
D'accord. Même partout dans le monde.
Oui.
Et donc, notre mission, c'était donc de. D'abord, on appelle Normal Global l'éducation sous toutes ses formes.
Oui.
C'est-à-dire qu'on éduque les gens sur la santé, on éduque les gens sur les finances.
Oui.
Par exemple, quand quelqu'un arrive des États-Unis, il ne sait pas ce que ça veut dire le crédit. C'est quoi les crédits? Des choses élémentaires comme ça. Donc, on est obligé de prendre les dames, nos grandes sœurs, nos femmes, les petites. Okay. Si vous voulez prendre un crédit, il faut ce qu'on appelle ici. Si vous voulez prendre l'argent dans une banque, il faut ce qu'on appelle un crédit. Donc, on est dit que les gens ont moins
sur. Les basiques sur.
Les basiques stables, voilà. Les choses élémentaires.
Oui.
Hein.
Oui.
Par exemple, les paroles de. L'éducation, par exemple.
Oui.
C'est quoi quand mon enfant a reçu un A ou bien un B?
Un B, c'est quoi exactement?
C'est quoi exactement?
Ouais. Parce que j'ai vu des parents qui viennent ici mais qui comprennent
ils
pas
comprennent
cette situation-là.
Ouais, donc, on met le global à cette mission-là d'aller expliquer un peu ce que c'est.
Ouais.
L'implication des parents dans l'éducation de ses enfants, aller le suivre un peu partout.
Vous écoutez RM Show avec Roger Muntou.
Oui, c'est chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Phil, reste avec nous. On va prendre une petite pause pour notre segment Actu. C'est tout de suite. Au Mali, l'armée a annoncé mardi soir dans un communiqué avoir neutralisé des terroristes lors d'opérations au cours des derniers jours au nord-est de Bamako. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi dernier leur retrait militaire du Mali, conduisant les autres acteurs étrangers à étudier l'impact de ce désengagement. Au Tchad, 5 soldats ont été tués par des djihadistes dans la région du lac Tchad, devenu ces dernières années un repère important des groupes Boko Haram et État islamique, a annoncé mercredi le président Mahamat Idriss Déby Itno. Les djihadistes ont installé des camps sur la multitude d'îlots couvrant le bassin du lac Tchad. La Centrafrique a ouvert une enquête mardi après l'arrestation la veille à Bangui de 4 militaires du corps de la Légion étrangère de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU. Ils avaient été accusés aussitôt sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président centrafricain, ce que Paris et l'ONU avaient immédiatement démenti avec force. On finit au Soudan où le général Mohamed Hamdan Daglo, dit MT, numéro 2 du pouvoir militaire, se rend mercredi à Moscou qui négocie la construction d'une base pouvant accueillir des navires à propulsion nucléaire sur la mer Rouge. Une visite qui inquiète particulièrement les Occidentaux. C'est tout pour l'actu. Vous écoutez RM Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington DC. C'est la country music ce soir.
Making hay, hay. I'm a wild girl going in the sunshine, soaking up the waves. Michelle Joseph, it's time for us to learn a word or an expression in English. What do you have for us tonight, Miss Michelle Joseph?
Hello everyone, bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, find, F-I-N-D, en français F-I-N-D. Trouver, retrouver, trouver quelqu'un dans un certain état. Find, c'est aussi chercher. I can't find my shoes, je ne retrouve pas mes chaussures. Did you find what you wanted at the store? As-tu trouvé ce que tu cherchais? Dans le magasin, I opened Google Map to help find the location. Je me suis servi de l'application Google Map pour trouver l'endroit. Find something to do and have fun. Trouve quelque chose à faire et amuse-toi. Where did you find it? We've been looking all over for it. Où l'as-tu retrouvé? On l'a cherché partout. I find that you look great. Je trouve que tu as l'air fantastique.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Montou, seulement ici, dans RM Show, sur VOA Afrique.
Lambert dans White Liar, la version acoustique de cette chanson, parce qu'elle en a fait de différentes versions, version studio et version acoustique. Miranda Lambert, qui n'est plus à présenter dans ce milieu de la musique country, elle a reçu elle a gagné plusieurs prix, elle a remporté plusieurs prix. On continue en deuxième partie de la nuit par ailleurs.
Show money.
Partie de RM Show. Bien sûr, nous allons retrouver après cette première chanson, nous allons retrouver Georges-Léonard Sagnon pour l'actualité sportive. Mais aussi, nous avons mon invité de ce soir, oui, l'Ivoirien Nomel, oui, c'est Nomel, Phil Nomel Descali, qui est écrivain, qui est auteur, qui est aussi journaliste, qui est notre invité ce soir pour parler de plusieurs sujets, de son livre, d'une dictée qu'ils organisent ici à Washington, aux États-Unis. Et aussi, bien sûr, de la situation en Afrique. Ouais, nous allons retrouver Phil Nomel Descali dans un instant. Mais on déguste aussi de la bonne musique traditionnelle américaine, comme on le fait chaque mercredi. Oui, la musique du Sud. Ouais, quand vous allez au Texas, je vous ai toujours dit, si vous visitez les États-Unis, faites-moi un grand plaisir d'aller visiter le Sud, le Texas, là au fond fin, là où les cowboys vivaient. Vous allez écouter, déguster de la bonne musique country comme Whistling Dixie. On écoute ce morceau.
Yeah, I like to run with the old dog. Learn bad habits from my pawpaw. I got an in with the outlaw. Now I can only sing like I talk, y'all. I like to smoke from the left hand. Cranking out, stomping a bar. Firing up another when the song ends. And hanging out here with my new friends. Go! I'm a son of the sound. Daddy redneck, mama half hippie. Talk how to talk straight. Not back from a little white butt. Get a whip man. I like catfish cooking on a creek bank. How you can't find in the city. Oh, I ain't just whistling Dixie. Well, I ain't scared of a shotgun. Folks round here, we all got one. Don't give a damn or a dadgum if you don't like where I come from. I like a girl from a down home. Even better, not a thing on. Jump in.
RM Show en direct de Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Après cette chanson, nous allons passer à notre segment sport. C'est avec Georges Léonard Sagnon, comme on le fait chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, surtout pour nos amis, les sportifs et sportives qui restent scotchés à attendre ce segment. Oui, Mr. écoute, Georges, je sais que vous êtes en train de déguster la musique traditionnelle américaine ce soir avec nous. Alors, dans l'actu, de quoi parlons-nous ce soir?
Bonsoir, Roger. Bienvenue à toutes et à tous. Direction le Sénégal, où on a inauguré hier le nouveau stade qui porte désormais le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Pour plus de détails, retrouvons Seydina Abagay, correspondant de VO Afrique à Dakar.
Un stade de 50 000 places, une pelouse hybride, un système électrique en solaire de 2 MW, deux terrains annexes, une piste d'athlétisme et un musée du football, le tout pour un budget global de 156 milliards de francs CFA. Pour le président Macky Sall, c'est un investissement vital pour la jeunesse et le sport. Le chef de l'État sénégalais a par ailleurs décidé de donner le nom du stade à son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade.
Les vertus rassembleurs du sport nous rappellent que nous sommes une seule et même nation unie par sa devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade. Un hommage à son parcours multidimensionnel.
De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est félicité de voir le Sénégal disposer d'un stade qui répond aux normes de la FIFA et de la CAF.
Ça, c'est le football. C'est l'émotion. C'est la passion. C'est le cœur. C'est la vie. Et vous êtes un pays heureux, un pays fier aujourd'hui pour ce que les Lions de la Teranga ont fait. Parce qu'on est là pour inaugurer un véritable bijou.
Le président de la CAF, Patrick Mostepe, a dit toute sa fierté de voir les dirigeants africains investir dans le sport en général et le football en particulier.
Aujourd'hui est un jour historique pour le football sénégalais et africain. Il y a de cela quelques jours, nous étions au Cameroun et c'était un honneur de remettre le trophée au Sénégal. Il faut dire que le football sénégalais nous rend tous fiers, nous remercie. Remercions le président Macky Sall pour son soutien au football à travers ce joyau, mais aussi le président de la Fédération sénégalaise de football pour son leadership en Afrique.
For development in Africa.
Seydina Abagay à Dakar pour VO Afrique.
Merci Seydina Abagay pour ce beau reportage. De retour ici aux États-Unis, le football féminin vient de remporter une bataille judiciaire. Dorénavant, les femmes seront payées au même titre que les hommes dans le domaine sportif. Le montant du règlement judiciaire s'élève à 24 millions de dollars US. C'est la fin des sports. Roger, je vous retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée.
Votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
Roger Moutou.
Et donc, Phil Nomel Descali, les amis, vos amis et vous-même, vous vous êtes dit, pourquoi pas créer une dictée, c'est ça?
Et tous les gars qui nous sont venus, des amis et moi, on dit, mais attends, on peut seulement pour...
Qui est la dictée de nombreux...
Nomel Global, voilà. Ouais. Nomel Global, la dictée de Nomel Global, ouais. C'est de réunir un peu les frères francophones, qui ont, ceux qui ont fait l'école primaire en Afrique. Et qui ont cette passion-là de la belle langue française, pas qu'on dise, c'est une très belle langue.
Mais bien sûr.
Et quand l'idée a été lancée, alors je ne vous cache pas, il y a eu, les gens s'en sont saisis. Ils disent, oh, mais tiens, c'est une très belle idée, comme tu le dis d'ailleurs. Mm-hmm. C'est une très belle idée, mais on est prêt. Et aujourd'hui, quand on a lancé l'idée un peu, on a eu, en deux semaines, on avait près de 37 personnes inscrites.
Waouh!
Ouais, pour prendre la dictée.
Oui.
Je sais que le nombre va monter avec cette interview que nous faisons.
Oui.
À partir de la semaine prochaine, nous faisons une publicité tout azimut pour la propager, diffuser l'idée.
Ouais.
Et donc, c'est une idée de se retrouver. Mm. C'est pas les jeunes, hein, puisque les jeunes gens, ils parlent pas français.
Ouais.
Mais c'est entre nous, les adultes, on va se retrouver pour, autour d'un pot, ça se passe à Gettysburg, à côté de chez moi, pour qu'on puisse faire la dictée et jouer. Il y a donc un prix, le prix, c'est un billet d'avion offert par une assurance, un frère. Et puis, il y a beaucoup de choses. Donc, là, le parrain, M. Boissin, un futur candidat, qui me soutient dans l'idée. Donc, beaucoup de gens ont épousé vraiment l'idée de la grande dictée. Donc, c'est une sorte de convivialité, de se retrouver en frère africain francophone pour manger, jouer et rire un peu, si on n'a pas encore oublié le français.
Ah, ça, c'est très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un nombre limite de gens que vous voulez avoir comment ça se passe? Comment vous envisagez? Comment vous voyez ça? Comment ça va se passer? Bon, les gens viennent. Prenons qu'il y a une centaine de personnes qui viennent. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, il faut s'inscrire.
Ah, ils vont s'inscrire.
Il faut s'inscrire. On a un lien.
Oui.
Il y a le lien qui a été déjà lancé. On l'a partagé sur le WhatsApp. Il y a le website nomelglobal.org.
OK.
Il faut s'inscrire. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas inscrit et que vous venez, on peut peut-être faire des choses. Mais déjà, nous avons 37 personnes. La salle que nous avons prise prend 140 personnes.
OK.
Donc, à la réunion que nous avons eue il y a deux semaines, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse le plein, vous savez, avec le Covid et tout ça. Donc, on est en train de voir s'il faut qu'on prenne, on s'arrête à 70. Donc, on est déjà à 37, il reste pas vraiment beaucoup de gens. Donc, ce ne sera pas donc toute la foule qui viendra. On a une liste qui est inscrite.
Et
donc les gens viendront, on va les faire asseoir. Vous-même, Roger, vous serez donc
mon
partenaire.
Ouais.
C'est Roger qui va lire la dictée. Roger va lire la dictée. Voilà, il a accepté. Vraiment, merci beaucoup.
Ouais, ouais.
Et puis bon, tous les membres du Nomel Global seront donc les correcteurs, puisque le test sera là, on va corriger. Et sur place, on va donner le résultat des trois premiers. Le premier, donc, il aura le Super Row. Il ira là. À Nouvelle-Orléans.
Oh, wow.
Trois nuits payées.
Payées.
Le samedi, on lui offre un dîner galant dans le French Quarter. Tu connais bien nous, à Nouvelle-Orléans. C'est un joli coin.
Ouais, francophone puis, aussi.
Oui, voilà, francophone, voilà.
Oui.
Donc, on se retrouve un peu comme en Afrique, à Nouvelle-Orléans. Donc, c'est un peu ça. Et bon, en dehors de ça, il y a les ordinateurs qui seront remis et tout ça. Donc, beaucoup de choses que nous voulons faire pour la communauté.
Et donc, l'idée centrale, vraiment, derrière ça, c'est...
C'est juste s'amuser.
Oui, juste s'amuser.
C'est juste s'amuser, parce que, bon, la dictée, hein,
beaucoup... Ça, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, francophones dans ce pays, on a oublié c'est quoi la dictée, hein.
Ben oui, alors...
On a grandi avec ça.
Oui, on a grandi avec ça, mais je vais te faire une surprise. Il y a une Congolaise de chez moi, de chez toi, qui est inscrite, qui dit qu'il... Dis à tes frères ivoiriens, ce n'est même pas la peine qu'ils viennent.
Oui. Ça devient une compétition.
Elle, c'est pas la peine qu'ils viennent parce que je veux gagner. Elle dit, quand j'étais à l'école primaire, j'étais meilleur.
Ouais.
Et aujourd'hui encore, j'écris bien le français.
Wow.
Donc, dis à tes frères ivoiriens, maliens, tout ça.
Ouais.
Faut dire aux maliens, donc allez faire politique. Je dis, mais aïe.
Ça devient une compétition.
Oui, une compétition. Et alors, je vais te faire une surprise.
Oui.
Sur les 37 inscrits, personnes inscrites, nous avons près de 20 Burkinabés.
Ah bon?
Ah oui, et ils viennent en Gbogny, comme on dit à Abidjan.
Ouais,
ils viennent en Gbogny, ils disent ils veulent gagner.
Ils veulent gagner, quoi.
Ils veulent gagner.
C'est la décision. Mais ça, c'est bien, ça.
Oui, ils veulent gagner. Non, il y a une grande émulation.
Mais ça, c'est la première édition, n'est-ce pas?
La toute première édition.
Mais ça, je sens déjà qu'il y aura une deuxième édition.
Absolument, absolument.
Parce que s'il y a l'ambiance derrière ça, et on s'amuse, on se retrouve, et ça regroupe plusieurs Africains de la diaspora.
Absolument.
Je pense que ça, c'est encore une fois, c'est une de rares occasions où on trouve les Africains de la diaspora.
C'est vrai.
Intellectuel en plus.
Oui. Parce qu'il n'y a pas d'événement qui réunit tous les Africains de différents pays en même temps. Généralement, les Ivoiriens se retrouvent entre eux les Congolais entre eux, les Camerounais entre eux, mais le même global, comme on a dit, nous essayons de réunir tout le monde là, dans ce socle-là, dans ce moule-là, pour qu'on puisse dire, écoute, nous sommes tous frères et sœurs, et nous devons vivre ensemble, communier ensemble. Et c'est aussi un moment de réseautage,
oui.
Un moment de se connaître. Bon, toi, Roger, tu es une perle rare de la communauté. Mais je vois combien d'Ivoiriens qui t'écoutent, mais qui ne te connaissent pas, qui ne te voient pas. Donc ce sera l'occasion de venir te de voir, expérimenter, changer avec toi, des contacts, des numéros et tout ça.
Donc,
il y a beaucoup d'Africains francophones qui sont là, qui ont beaucoup de mérites, qui ont beaucoup d'expérience, qu'on va rencontrer à cet événement-là. Je connais un jeune Burkinabé qui est expert en informatique.
Ah bon?
Ah non, oui. Alors, qui sera là? Qui sera là? Donc, il y a des expertises dans nos communautés qu'on ne connaît pas. Dans cet événement-là.
Et donc, c'est un peu un événement du network.
Du networking, du réseautage, de se rencontrer.
Ouais.
Comme j'ai parlé de convivialité.
Convivialité.
De convivialité.
Oui. Waouh, ça, c'est une très bonne chose.
Absolument.
Mais brièvement aussi, Phil, vous avez parlé d'exporter ça en Afrique, cette idée-là derrière cette ONG-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez faire en Afrique, ou particulièrement, et qu'est-ce que vous pensez faire dans le futur ou que vous êtes déjà en train de faire?
Alors, dès qu'on a lancé l'idée de la grande dictée aux États-Unis, il y a une ONG en Afrique, particulièrement au Congo, qui nous a contacté, qui a dit, ah, tiens, est-ce qu'on pourrait organiser un tel événement qui n'existe pas chez nous au Congo en collaboration avec l'ONU Global? Et du coup, j'ai dit, ah tiens, donc l'idée là, non seulement ça prend ici, mais ça va prendre en Afrique. Et donc, j'ai contacté mon conseil d'administration, je leur ai soumis l'idée, et ils m'ont dit, écoute, s'ils veulent faire, on est prêt à collaborer avec eux.
Exactement.
Et donc, c'est le Congo. Le Congo Kinshasa, ils sont prêts, même avant-hier, ils m'ont envoyé un message, ils sont prêts à lancer l'idée. Je leur ai dit, ah, j'ai une réunion avec mon groupe demain, pour que je leur soumette pour leur final accord, avant qu'on puisse lancer pour le Congo. Donc le Congo est prêt, ils veulent organiser en juin, une grande dictée, ils sont prêts à prendre les relations, les contacts qu'il faut pour un succès. Vous savez qu'en Afrique, c'est toujours le grand monde.
Ah oui,
c'est le grand monde. Donc ça sera explosif, ça sera beau. Et on espère que on sera là pour voir ce succès-là.
Ce succès-là, ça c'est super. Brièvement, on a parlé aussi sur et ça c'est ça m'avait beaucoup intéressé quand hors caméra on a parlé de cette situation de mamans qui sont mis dans des prisons, comment on les appelle, dans des maternités. Ça c'est quelque chose qui vous touche vous particulièrement. Parlez-nous-en un peu.
Alors c'était en 2000. À la faveur du Covid-19. Au mois de mars, avril, ma femme était allée au Congo. Et elle a vécu ça. Elle m'a appelé.
Je rappelle que la femme de Phil, c'est une Congolaise.
Une Congolaise, une belle Congolaise. Et donc, elle m'a parlé de cette idée.
On salue madame en passant.
Oui, voilà, je la salue. Hein.
Ben ouais.
Elle me fatigue, mais je l'aime. Alors, donc, elle m'a parlé de cette idée et j'avais du mal à comprendre qu'une femme qui accouche peut être retenue, maintenue dans un hôpital, souvent même on dit 2, 3 ou 4 ans.
Oui.
L'enfant même marche et il y a encore l'hôpital. Et c'est une vie complète. Et donc, elle et moi, on a décidé de faire quelque chose. Donc, au mois de mars, on a déjà un fonds qui a été alloué à ça. Qui a été alloué, mais on ne voulait pas envoyer à quelqu'un qui pourrait, tu vois, non, le
détourner. Bien sûr, qui va détourner.
Donc, comme dit, nous allons aller nous-mêmes, avec l'accord toujours du conseil d'administration de Nomad Global, pour un temps soit peu essayer de sortir quelques femmes. Nous n'allons pas sortir toutes les femmes, mais la Bible dit que si on peut trouver même 10 saints, c'est déjà bon. Donc, si on a pu sortir 10 femmes avec leurs enfants, pour nous, c'est un grand. C'est inadmissible qu'un pays aussi riche.
Et combien on demande pour libérer une femme qui...
Alors, les recherches qu'on a eues, les messages qu'on a eus, parce qu'on a envoyé des gens dans les hôpitaux, souvent ça représente la modique somme de 175 dollars pour faire sortir une femme. Certaines femmes sont maintenues là-bas pour 175 dollars. Et c'est inadmissible. Ça ne doit pas être fait. Cela ne devait pas être. Parce qu'une femme qui accouche, où est le côté social? Où est le service social au Congo? On ne peut pas maintenir une femme juste parce qu'elle a accouché. Au contraire, il L'accouchement, là, donner un enfant, c'est une bénédiction pour le pays. Le pays doit faire quelque chose pour que ces femmes-là puissent retrouver leur famille. Mais quand tu accouches, ça devient une punition. Je demande aux autorités congolaises de faire quelque chose dans cela.
On finit avec cette dernière question. Phil, vous êtes ivoirien d'origine. Vous êtes, moi je vous considère panafricaniste, parce que quand même, vous êtes marié à une congolaise, vous aimez bien votre continent, l'Afrique. Vous vivez aux États-Unis pendant plusieurs années. Que pensez-vous de la situation de votre continent africain aujourd'hui? Et quels conseils vous avez à...
Moi, je pense que l'Afrique est en ébullition. L'Afrique est en ébullition. Il y a ce qu'on appelle les yeux du monde entier sont rivés sur l'Afrique. C'est un continent immensement riche. Pourquoi on nous appelle un continent en voie de développement? Il paraît que l'Afrique compte pour 2% dans le commerce mondial. C'est écœurant, c'est inadmissible et c'est même maladif. Quand on sait que tout part de chez nous, l'uranium, l'or, le diamant, je ne peux même pas citer tout ce que nous avons en Afrique. Les fruits, il y en a à gogo. L'Afrique se réveille. Quand vous prenez un pays comme le Centrafrique, où les dirigeants disent « on est fatigué ». De l'Occident. On est fatigué de la France. La France a été voûtée. C'est arrivé au Mali. Ça va continuer sur cette lancée-là. Je veux dire, on n'a rien contre la France. Mais il faut qu'elle revoie sa politique. Il faut qu'elle revoie sa manière condescendante de voir les pays africains comme si c'était elle qui était l'envoyée divine.
L'envoyée divine, pardon. Ça ne soit vu non plus comme si c'est un problème personnel.
Mais c'est un problème personnel. Mais il faut qu'elle revoie sa politique. Il faut qu'elle se dise qu'elle n'a pas cette mission divine-là de venir éduquer les pays africains. Nous devons travailler d'égal à égal. Ou si je te vends une sève de cacao, je dois être retribué. Vous savez, mon père était agriculteur. Mon père était agriculteur. Et dans les années 70, 80, début 80, quand j'étais à l'école, on nous payait le kilo de cacao à 150 francs. Ça ne faisait même pas 10 cents. Bon, le vieux, il avait 5 enfants qui devaient aller à l'école. C'était toujours difficile. Alors, le kilo qui est vendu à 150 à Abidjan est vendu à 2500 à Londres. Le même kilo. Alors, celui qui le paye à Londres n'a jamais été au champ, n'a jamais cassé une cabosse de cacao. Et c'est ça qui révolte aujourd'hui les Africains. Ils veulent être rétribués à la valeur de leur, des efforts qu'ils font, des efforts qu'ils fournissent pour leur production. On ne peut pas continuer comme ça. Que mon pays soit riche en diamants. Lisez un peu l'histoire. Centrafrique, un pays immensement. Parce que quand on parle du Centrafrique, on parle du Congo. C'est le même sous-sol. Le Centrafrique est un pays pauvre. Pourquoi? Le Congo, un pays pauvre. 90 millions d'habitants. Ça, c'est une richesse. Et vous allez au Congo, dans les rues, un policier est payé à 80 dollars. Si je ne m'abuse, hein, ce n'est pas normal. L'Afrique se réveille et c'est un réveil qui va continuer. Qui va continuer. On ne va que revenir en arrière. Les pays occidentaux doivent revoir les politiques de condescendance et dire, écoutez, reconnaître leurs torts. Dire, écoutez, je sais qu'ils ne feront pas, mais il faut qu'ils sachent que désormais, on doit faire une politique gagnant-gagnant.
Dit de la part de Phil Descalinomel. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui dans RM Show, dans Vous et Nous. En tout cas, si peut-être la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois.
Absolument, c'est sûr. Je fais un plaisir.
Surtout que vous avez ces beaux bouquins. On va encore vous inviter prochainement. Et puis pour parler des sujets sociaux, culturels, politiques, tout ce qui concerne le continent africain. Merci en tout cas.
Je vous en prie. Merci de m'avoir aussi à votre studio, votre beau studio.
Merci beaucoup.
J'ai été émerveillé.
Merci.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, dans RM Show sur VOA Afrique.
Eh bien,
bien sûr, on atterrit lentement mais sûrement avec cette superbe chanson de Josh Thompson, une de mes chansons préférées de la country music ce soir. Way out of here, ici chez nous, dans le Wild Wild West. C'est comme ça qu'on vit ici. C'est ce qu'il est en train d'expliquer dans sa chanson. Ouais, ici, faites attention quand vous venez chez nous. Faut pas nous embêter, on est tranquille.
Our houses are protected by the good Lord and a gun. And you might meet them both if you show up here, not welcome, son. Our necks are burnt, our roads are dirt, and our trucks ain't clean. The dogs run loose, we smoke, we chew, we fry everything out here.
Chanter comme Josh. We are here. Oui, ici chez moi, ici chez nous, quand vous venez, faites attention parce que notre maison est protégée, notre ville, nos maisons sont protégées par Dieu et par nos armes. C'est ce qu'il est en train de dire dans sa chanson. Donc quand tu viens nous visiter, tu vas rencontrer les deux personnes, et Dieu et nos armes. Ouais, c'est Josh Thompson qui chante cette superbe chanson Way Out Here. On atterrit bien sûr avec cette chanson. Merci beaucoup d'être ici à l'écoute de RM Show. Ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. On se retrouve demain dans RM Show, dans African Music. Et vous ne pouvez pas rater la sélection musicale de demain. Je vous dis comme d'hab les amis, la nuit porte conseil. Ja bless. Peace Africa.
C'était RM Show, une émission de VOA.